Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre programme en français sur la radio SBS. Nous sommes le samedi 7 février 2026 et je m'appelle Marianne Murat. Nous allons passer une heure ensemble et comme tous les samedis, on commence avec la rétrospective. Pour la rétrospective de la semaine, on fait un bond de 55 ans dans l'histoire et on revient au 7 février 1971, jour où les femmes suisses obtiennent enfin le droit de vote et d'éligibilité. Retour sur cette date historique, sur cette victoire tardive avec Iléana Guillochon.
Difficile d'imaginer que la Suisse n'ait accordé le droit de vote aux femmes qu'en 1971. C'était le 7 février de cette année-là, les Suisses ont enfin dit oui au droit de vote et d'éligibilité pour les femmes. Mais comment dans ce petit pays neutre a-t-on pu prendre autant de retard alors que ses voisins européens avaient déjà franchi le pas depuis longtemps? Revenons en arrière sur le long chemin du suffrage féminin suisse.
Celui-ci a de la chance, c'est un garçon. Une fois marié, lorsqu'il accomplira son devoir civique, sa femme demeurera en faction là où la majorité des Suisses croit qu'elle remplit le mieux son rôle, devant la porte.
L'article 4 de la Constitution de 1848 proclamait l'égalité des droits pour tous les Suisses, enfin presque tous, sauf les femmes. La démocratie directe ne concernait alors que les hommes. Dès la fin du XIXe siècle, des suffragettes et des associations militent pour le droit de vote, bientôt soutenues par le Parti socialiste. Déjà, les femmes payaient des impôts et travaillaient, mais leurs revendications restent sans effet et leur engagement public dans des actions jugées modestes, comme par exemple l'éducation ou la religion, contribue à maintenir leur statut subalterne. Voter n'est pas considéré comme une occupation féminine. Dès 1914, avec la Première Guerre mondiale, l'idée du droit de vote pour les femmes commence à circuler dans les villes suisses. Des propositions sont déposées, dans les cantons alémaniques comme francophones, mais elles restent bloquées au Parlement. Après la guerre, le suffrage féminin progresse ailleurs en Europe, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Russie, alors qu'en Suisse, rien ne bouge vraiment. Plusieurs votations ont lieu dans les cantons, mais sans succès. Les femmes restent exclues des urnes. Et au niveau fédéral, deux premières motions sont déposées au Conseil national, mais elles sont vite affaiblies et mises au placard pour des décennies. Le suffrage féminin, c'est pas pour demain. En 1929, une nouvelle pétition est lancée au niveau fédéral, avec plus de 200 000 signatures, hommes et femmes confondus. On pourrait penser que cette fois-ci marcherait, mais non, la pétition ne passe pas et reste lettre morte. Dans les années 30, le contexte change, la crise économique frappe et les courants conservateurs et fascistes gagnent du terrain. L'idée nouvelle, mais pas si nouvelle, revient, la place des femmes est à la maison. Parmi les opposants au suffrage féminin se trouvent également des femmes, affirmant que voter ferait perdre toute féminité. Beaucoup d'affiches de propagande sont placardées, le combat pour le suffrage est alors mis en pause.
Une fois de plus, les femmes peuvent prendre la place de l'homme et accomplir le travail avec autant de rectitude, d'exactitude et de perfection.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les associations redoublent d'efforts. Elles s'impliquent dans les secours populaires dans l'espoir d'obtenir plus de droits politiques. Mais les projets de loi déposés sont une fois de plus rejetés. En France, la participation des femmes à l'effort de guerre et à la résistance ouvre naturellement la voie au droit de vote dès 1944. En Suisse, en revanche, le changement et la récompense se fait attendre. Les votations cantonales et communales se soldent encore et toujours par des échecs.
La question du suffrage féminin est posée en Suisse dans la majorité des cantons. En matière fédérale, ce sera plus long. Pour le moment, nous attendons que le Conseil fédéral présente aux chambres le rapport qui lui a été demandé. Les chambres devront alors se prononcer sur ce rapport, et si elles admettent le principe d'une révision de la Constitution sur ce point, la question sera alors soumise au peuple, c'est-à-dire à la partie masculine de celui-ci.
Année 1950, l'essor économique ne change toujours pas grand-chose. La Suisse reste très conservatrice. Mais la structure politique du pays est bien faite. Même si le droit de vote des femmes est rejeté au niveau fédéral, il peut être introduit progressivement au niveau local, dans les cantons et les communes. Les femmes commencent à voter à leur échelle, dans les cantons qui le permettent, et d'autres femmes, malgré l'interdiction, déposent leur bulletin de vote illégalement. Et ça fait réagir.
Et voici le grand jour. Pour la première fois, des femmes pénètrent dans ce lieu sacro-saint de la supériorité masculine.
En 1957, le Conseil fédéral veut obliger les femmes à participer à la protection civile. Mais les associations s'opposent massivement. Pourquoi imposer aux femmes de nouveaux devoirs alors qu'elles n'ont toujours pas de droits politiques? La controverse devient publique et fragilise la protection civile. En 1959, le Conseil fédéral propose alors une première votation nationale sur le droit de vote des femmes, mais réservée aux hommes. Le gouvernement dit oui, les hommes disent non. En Suisse, ce sont les citoyens qui tranchent, le projet est donc rejeté massivement. Seuls les cantons francophones de Vaud, Genève et Neuchâtel votent en faveur du suffrage féminin et accordent aux femmes le droit de vote au niveau cantonal et communal. Mais malgré ces avancées, le débat reste loin d'être clos.
Contre.
Oui, je suis favorable.
Oui, c'est oui.
Je suis contre le suffrage féminin.
Monsieur ?
Oui, moi aussi.
1968, le Conseil fédéral prévoit de signer la Convention européenne des droits de l'homme. Scandale, les associations réagissent de suite et protestent. Dans un contexte social tendu, le Conseil fédéral lance un nouveau projet sur le suffrage féminin. Mais cette fois, les opposants restent silencieux, car personne ne veut perdre le soutien des futures électrices.
Les femmes vaudoises ne sont pas seulement vaudoises, elles sont aussi suisses. Et c'est pourquoi, pour nous aussi, cette votation de ce prochain week-end revêt une telle importance.
Ça s'est donc passé le 7 février 1971, les femmes suisses remportent enfin le droit de vote et d'éligibilité. Plus de 65% des hommes disent oui, une victoire. Mais 8 cantons sont toujours fermement opposés. Peu à peu, la majorité des cantons introduit également le droit de vote à petite échelle. Mais certains résistent encore avec des arguments fragiles. En 1990, le tribunal fédéral tranche et impose, sans délai, le droit de vote à tous les niveaux. Cette victoire arrive longtemps après d'autres pays européens, 53 ans après l'Allemagne, 52 ans après l'Autriche, 27 ans après la France et 26 ans après l'Italie. Selon certains historiens, plusieurs facteurs ont retardé l'obtention de ce droit. L'image stéréotypée de la femme, le marché du travail, la politique. La Suisse aura été l'un des derniers pays en Europe à l'accorder.
Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Qui nous font danser sous l'orage, je traverserais tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
La symphonie des éclairs chantée par Zao Tsagazan. Merci beaucoup de suivre notre émission, messieurs, dames. On marque une très courte pause. On se retrouve dans un instant avec l'Alliance française French Film Festival qui revient en 2026 avec une programmation riche et ambitieuse confirmant l'amour du public australien pour le cinéma français. On fait le point avec la directrice de l'Alliance de Melbourne, Marie-Hélène Prédhomme.
Le plaisir d'avoir Marie-Hélène Prédhomme, qui est la directrice de l'Alliance française de Melbourne, qui est dans les studios pour nous dévoiler le programme complet de l'Alliance française French Film Festival, la 37e édition. Bonjour et bienvenue Marie-Hélène.
Bonjour Jean-Noël, merci de m'accueillir.
Et peut-être on va commencer par les dates et les villes du Victoria qui vont accueillir ce festival.
Bah oui, commençons par le commencement. Donc effectivement, le festival va ouvrir le 4 mars à Melbourne jusqu'au 8 avril. On ouvre comme d'habitude dans le cinéma emblématique à l'Astor, Saint-Kilda. Il y aura d'autres projections d'ouverture en marge dans d'autres cinémas de la ville un peu plus éloignés. Ensuite, le lendemain, le festival ouvrira ensuite à Ballarat. Et puis, après le festival, comme nous avions déjà eu les dernières années, il sera à Bendigo en programme plus réduit, avec une sélection un peu plus restreinte. Bendigo pour le week-end du... Alors, je ne vais pas me tromper.
Le 17 avril.
Voilà, c'est ça. 17, 18 et 19 avril. Et parallèlement, nous allons, pour la première fois, amener le festival à Geelong, au Pivot Onion, du 16 au 28 avril.
C'est une grande, grande ville.
Oui, c'est une grande ville.
Et il y a même une alliance française.
Il y a une alliance française et on est ravis de pouvoir justement travailler avec eux et coopérer pour justement continuer à promouvoir le film, les films et la langue française. Et je sais qu'ils feront un bon travail aussi de promotion là-bas.
Et donc, 38 films à l'affiche. Vous êtes impressionné par la sélection de cette année-ci?
Ah bah, toujours, oui. Déjà. Toujours impressionné par le travail qui est fait par Frédéric, le directeur du Film Festival, pour la sélection, la négociation et pour les films qu'on arrive à pouvoir montrer avec une certaine diversité. Il y a toujours un thème dont il vous a déjà parlé, il me semble qu'il guide le festival, qui regroupe certaines choses sur l'année. Et oui, on va en parler. Plusieurs types de films et quelques coups de cœur, évidemment. Et puis tous les différents films autour desquels on peut faire des événements, des animations plus particulières d'une année sur l'autre.
On va parler des special events,
oui.
Les soirées spéciales,
oui.
À commencer peut-être par l'opening night.
Alors, l'opening night, c'est spécial et récurrent parce que chaque année, on a notre belle ouverture. Donc, comme on disait à l'Astor, avec une pré-réception, on va dire, ou une réception pré-film. Et puis ensuite, la belle after-party dans tout le cinéma avec de la musique, des mets et de la décoration aussi d'époque avec ce beau film La venue de l'avenir,
Colors of Time,
merci en anglais, où on saute d'une époque à l'autre et vraiment on fait des allers-retours et c'est vraiment super super agréable, je trouve, ce film. On a à la fois ce qu'on aime bien dans les films français, époque. Voilà, costume, Paris, mais pas que Paris, au 19e siècle. Donc on voit, on voit des rues de Paris en terre battue, beaucoup moins construite aussi, simplement. Donc il y a un Paris clairement imaginaire aussi, et la province, et puis comment se déplacer aussi pour venir à Paris avant. Donc c'est un super beau film qui nous fait faire un aller-retour entre les époques. Voilà, et on aura de l'animation, musique, évidemment, des super collaborations culinaires. Et ça va être une belle soirée.
Et au cours du mois, vous organisez aussi ce qu'on appelle les événements spéciaux.
Oui.
Avec les catégories Centerpiece, Taste of France, Classic Movie, Ladies Night.
Oui, voilà, donc il y a les classique, on va dire, comme vous disiez, sur donc Ladies Night, on va avoir un chouette film qui s'appelle Cycle of Time, avec à Brighton Bay, le jeudi 12 mars. C'est le premier événement spécial dans le sens où c'est un rafraîchissement en arrivant, un petit snack, on se retrouve. Donc un beau film aussi, évidemment avec toujours une petite pointe féminine. Donc là, c'est un peu comme un Back to the Future, avec voilà un couple qui, pour des raisons que vous découvrirez, pardon, se retrouve propulsé dans nos années 2020. Et c'est assez amusant parce qu'évidemment on voit le changement du statut de la femme entre autres, mais pas uniquement, aussi d'autres positions sociales, évidemment du statut de l'homme, de notre utilisation des technologies par exemple, etc. Donc c'est marrant parce que ça nous fait encore plus prendre conscience de tout ce qui a pu se passer en une cinquantaine d'années en fait. Donc oui, c'est un film assez amusant qui en plus a été réalisé par une femme. Voilà, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce qu'elle voulait vraiment faire passer un message? Voilà. Après, en autre événement spéciaux, on aura le Taste of France le 19 mars au Kino. Colin's Place comme chaque année aussi, avec le chouette film qui s'appelle Redress, je ne me souviens pas exactement du nom en français, qui est culinaire et en même temps aventurier. On passe
de la réparation, c'est ça.
Oh, c'est ça, voilà, c'est ça. Merci. La réparation. On passe de la campagne UP française d'un chef étoilé avec le restaurant du chef étoilé à Taïwan et l'exploration d'une fille pour retrouver son père chef. Et il ne faut pas que j'en dise beaucoup plus, sinon ouais. ça enlève le peps.
Et ensuite pour le centerpiece.
Pour le centerpiece, nous aurons la femme la plus riche du monde qui est traduit vraiment de la même manière. Donc là, ça sera plus facile, The Richest Woman in the World, qui est l'histoire de, qui est un reflet avec les noms changés, mais qui est en gros l'histoire de l'héritière Bettencourt. Voilà. Je pense que le film dépassera largement mes mots et mes commentaires. Je pense qu'il ne faut pas divulgâcher.
Et ensuite, pour le classic movie, c'est un homme et une femme.
Oui, ouais, ouais, le 60e anniversaire de ce beau film de Claude Lelouch qui permet aussi de voir que, en fait, certaines choses ne changent pas trop dans la vie, dans les relations, mais le film a été en bon français remasterisé. Il a été retravaillé en fait, rénové, et ouais, j'ai hâte de le revoir en grand et en belle qualité.
Et ensuite pour la closing night.
Alors le closing night, ça sera une romance. Il y en a d'autres dans le festival, des films un peu romantiques et amusants, etc. Et pour Closing Night, le 8 avril, on aura Rodrigue in Love, avec un très mauvais, très très French accent. voilà, qui est une histoire de retrouvailles, de séparation, mais surtout autour du festival d'Avignon et des beaux décors. Et ça permet aussi de se rendre compte en fait de ce que c'est ce festival qui est hyper vibrant, et des behind the scenes en fait, de voir les coulisses et les différences entre les grandes productions et les troupes plus amateurs. Ou en tout cas moins professionnel, mais moins connu et donc moins rémunéré. C'est une chouette comédie. On suit les aventures d'un amoureux qui ferait beaucoup de choses pour essayer de conquérir un nouveau cœur.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. Mais ma meilleure ennemie, c'est toi, fuis-moi, le pire c'est toi et moi.
Un duo sur les ondes de Radio SBS, Stromae et la chanteuse Pomme, avec ce titre, Ma meilleure ennemie. on retrouve Grégory Pless et Romain Fati pour un nouvel épisode du podcast « L'histoire cachée de l'Australie ». La semaine dernière, on vous faisait découvrir les deux premiers épisodes de la série consacrée à l'ancien Premier ministre Bob Hawke. Partie 3, ce samedi, avec les réformes mises en œuvre par le gouvernement de Bob Hawke durant les années 80 et le début des années 90.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, troisième partie de notre épisode consacré à l'ancien Premier ministre travailliste Bob Hawke. Cette fois-ci, ça y est, celui-ci a remporté les élections en tant que leader du parti et on va s'intéresser plus précisément dans cet épisode à son exercice du pouvoir puisque au cours des quatre mandats qu'il a passés à la tête du gouvernement australien, il a mis en place de très nombreuses réformes, en particulier sur le plan économique. Très bonne écoute à tous. Donc finalement, il prend la tête du parti en février 83 et le mois suivant, en mars, il remporte très largement les élections fédérales, effectivement face à une coalition très impopulaire en fin de mandat. Dans l'épisode qu'on avait consacré à un autre travailliste, Gough Whitlam, qui lui était arrivé au pouvoir 10 ans plus tôt, on avait dit que sous son impulsion, l'Australie était passée, sur le plan culturel en tout cas, du noir et blanc à la couleur. Le gouvernement de Bob Hawke, lui, il va profondément réformer l'Australie sur le plan économique.
Oui, tout à fait. Alors, le grand leader du parti travailliste dans la seconde moitié du XXe siècle, enfin du moins en termes d'image et de popularité, c'est Gough Whitlam parce qu'il a transformé l'Australie. Il a vraiment fait passer, il a fait changer de siècle en réalité. Et donc, c'est resté une mémoire très vivace pour les Australiens. Bob Hawke, je pense qu'il va falloir encore quelques décennies pour que cette image lui soit également conférée. Ce que, effectivement, vous avez raison de le rappeler, c'est plus dans le domaine économique, et donc c'est un peu plus, comment on pourrait dire, c'est un peu plus spécifique, un peu moins sexy que ce qu'a fait Gough Whitlam en termes de révolution culturelle vis-à-vis de droits des femmes, vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis des films, des arts, de la musique, enfin voilà, beaucoup de choses sous Whitlam. Hawke s'est concentré sur ce qu'il savait faire, savoir l'économie et le droit des travailleurs et comment fluidifier tout ça. Parce que c'est une époque où il y a énormément d'inflation, de l'inflation en Australie à 12, 13, 14, 15%, c'est énorme. Et donc lui, une de ses principales missions, quand il arrive au pouvoir, déjà il se rend compte qu'il y a un énorme trou dans la caisse et que donc un certain nombre de ses réformes ne va pas pouvoir être menées à grand train et qu'il va falloir attendre. Donc il a cette intelligence de dire « Oh là là, j'ai été élu, mais le gouvernement précédent m'a caché le fait que les finances publiques sont dans un état catastrophique », ce qui est paradoxal parce que c'était soi-disant un gouvernement de small state, vous savez, s'occuper de la police, de l'armée, et puis des prérogatives régaliennes, mais on est un parti libéral sous Fraser, et voilà. Et pourtant...
Fraser qui est arrivé au pouvoir après la destitution de Gough Whitlam parce que les finances étaient en berne. Là, il n'y a pas eu de destitution. Pardon, je ne vais pas relancer le truc, mais...
Non, mais c'est... C'est très bien que vous notiez l'ironie de l'histoire. C'est très bien. Et donc, Bob Hawke veut se concentrer sur relancer la machine parce qu'il la trouve grippée. Et il se lance dans un certain nombre de réformes qu'on n'aurait pas nécessairement attendues d'un travailliste. Par exemple, la dérégulation de certains marchés. Par exemple, la vente d'entreprises nationales comme la Commonwealth Bank of Australia. De mémoire, je crois que c'est lui qui fait privatiser Qantas également. Donc vous savez, quand Mitterrand arrive à la même époque, il nationalise. Bob Hawke fait exactement l'inverse. En disant, ce n'est pas le rôle de l'État de s'occuper de choses que n'ont pas besoin absolument tous les citoyens, qui peuvent être gérées par des entreprises. Et donc, il privatise. Il fait passer le Sex Discrimination Act, c'est-à-dire c'est une loi anti-discrimination au travail, ce qui en fait va être en faveur des femmes australiennes qui parfois étaient rémunérées, enfin souvent, bien moins que les hommes. aussi également Medicare. Bon, la sécurité sociale australienne, elle existe depuis bien plus longtemps, mais celui qui l'a vraiment rendue forte, puissante et dans tout un tas de domaines, c'est Bob Hawke. La petite carte verte qu'on connaît d'ailleurs, si vous êtes citoyen australien, vous avez cette carte, un peu la carte de sécu française, si vous voulez. C'est Bob Hawke. Il y a une pub qu'on peut encore trouver sur Internet où en fait on voit un facteur qui arrive, qui tape à la porte d'une belle maison. Et c'est la résidence du Premier ministre qui l'ouvre. Il y a marqué Monsieur Bob Hawke sur la lettre. Il l'ouvre et c'est sa carte Medicare. Il explique au public australien à quoi ça va leur servir. Donc des réformes sociales également. Mais surtout, si je reviens à l'économique, c'est la fin des droits de douane. L'économie australienne, pendant assez longtemps, a été mise sous cloche et protégée par des droits de douane très important, ce qui fait que en 1982, vous pouvez avoir une Toyota avec quatre vitres électriques et que la voiture australienne de 1982 elle ressemble plus à celle des années 60, parce que c'est un marché qui ne s'était pas ouvert à la compétition. Et donc, paradoxalement, ça vient de la gauche, mais ça a permis à l'Australie de se sortir d'un certain marasme en termes d'inflation, un certain marasme aussi vis-à-vis de l'emploi. Et donc, on arrive dans une situation qui est très difficile. Et en quelques années, il arrive vraiment à faire changer les choses. 85, 86, 87 sont plutôt de bonnes années en Australie. Grâce à des réformes à la fois économiques, mais aussi fiscales, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais aussi en encourageant l'éducation. De mémoire, quand il devient Premier ministre, il n'y a que 3 étudiants australiens sur 10 qui arrivent jusqu'en 3e, et quand il quitte son poste, il y en a 7 sur 10. Terminal. Donc, il accorde des crédits à l'éducation et il essaye de préparer les étudiants australiens en tant que future main-d'œuvre pour se transitionner vers une économie de services plutôt qu'une économie agricole ou de production de voitures, de micro-ondes, etc. Donc, il est assez visionnaire de ce point de vue-là. Et assez tôt, il invite le chef du Parti communiste chinois à venir dans les Pilbara, qui est une région du nord de l'Australie occidentale, qui avant était inexploitée et qui représente quasiment à elle seule la puissance minière de l'Australie dans les années 90 et 2000, grâce justement à Bob Hawke, qui intègre son pays économiquement dans la zone Asie-Pacifique plutôt que de regarder vers Londres. Donc, un visionnaire.
Alors, on va revenir là-dessus, mais en tout cas, c'est vrai que ce que vous décrivez montre qu'il n'était pas vraiment le tenant d'une gauche très radicale. C'est même des mesures, au final, assez libérales qu'il a mises en œuvre, mais qui, visiblement, ont porté leurs fruits, ont sorti l'Australie d'une situation économique assez difficile et qui explique sans doute la très grande popularité dont il jouit dans ses premières années de mandat. Ça va mettre beaucoup de temps à s'essouffler, cette popularité. Je voulais que vous reveniez rapidement, vous en avez évoqué quelques-unes, sur quelques réformes sociales qu'il a mises en place ou sociétales. Je pense notamment à un rapprochement, on va dire, avec les peuples aborigènes en particulier.
Ça, c'est un de ses regrets. Il a passé quand même 15-20 ans à l'expliquer après, donc dans les années 2000, jusqu'à son décès de mémoire en 2019. Il n'avait pas fait assez pour les aborigènes. Il avait promis un traité, une reconnaissance que la Terre avait été volée. Et malheureusement, les planètes ne sont pas alignées politiquement pour faire ce travail. Il y a une chanson très célèbre du groupe Yothu Yindi qui s'appelle Treaty, que je vous encourage à écouter. On voit d'ailleurs au tout début du clip des images de Bob Hawke. Et le chanteur dit oui, tous ces politiciens nous ont promis plein de choses, et puis finalement, il n'y a toujours pas de traité, nous on veut un traité. Bob Hawke, c'est le grand moment de l'Australie multiculturelle et qui se confronte à son passé. Keating va en bénéficier. Keating essaiera d'avancer plus loin. Hawke est restreint à cause de tout un tas de choses. Par exemple, du Parti libéral qui est radicalement opposé à l'époque à toute forme de reconnaissance qui pensent que se réconcilier avec les aborigènes, c'est semer la discorde au sein de la population australienne. Donc il a un peu du mal à faire avancer ce dossier. Cependant, c'était quand même le début d'un certain nombre de cas, enfin de jugements d'enfer qui sont portés devant les tribunaux en Australie, où les aborigènes viennent réclamer leurs terres, et ces procédures souvent entamées sous le gouvernement Hawke se dénouent plutôt positivement dans certains cas, quand on change de voix de premier ministre, toujours travailliste, Keating, au début des années 90. Les réformes dont j'ai parlé économiques, elles sont évidemment menées par Bob Hawke, mais grâce à son homme de fer, en réalité, son ministre des Finances, Paul Keating, qui finira par le remplacer. Donc il y a ce duo à la tête de l'État qui fonctionne très bien. Hawke, c'est vrai, dira qu'il aurait pu faire plus pour les aborigènes et que c'était un de ses grands regrets. Une des choses pour lesquelles il a tiré le plus de fierté, c'est le traité de protection de l'Antarctique qu'il arrive à faire signer pour qu'il n'y ait pas d'extraction de quoi que ce soit en Antarctique jusqu'à au moins 2048. Il était assez porté sur l'environnement, ce qu'il faut le rappeler, dans les débuts des années 80, n'était pas donné à tous les hommes politiques. Donc pareil, il a senti le vent tourner là-dessus assez tôt.
On va revenir sur Paul Keating. Je voulais juste aborder brièvement la politique internationale de Bob Hawke, et notamment un point en particulier. Vous avez mentionné tout à l'heure le rapprochement et plutôt l'invitation qu'il a faite à la Chine à venir investir dans la région de Pilbara, qui regorge effectivement de minerais, en particulier de fer, et qui reste encore aujourd'hui la région qui assure la quasi-totalité des exportations australiennes. Et comment il a pivoté de l'alliance traditionnelle avec Londres et l'Europe plus généralement, et a replacé l'Australie là où elle se trouve géographiquement, c'est-à-dire proche de l'Asie. Et donc tout ça pour dire que Bob Hawke, il est à l'origine d'une institution qu'on connaît sous le nom de l'APEC, qui est en français la coopération économique de l'Asie Pacifique. C'est lui qui a créé ce rassemblement qui a toujours lieu d'ailleurs tous les ans ici.
Oui, et qui maintenant tourne, mais le premier rendez-vous, c'est effectivement en novembre 89. Et en fait, le principe, c'est d'intégrer l'Australie à sa région économique. Ce n'était pas jusqu'alors sa région culturelle, puisque les Australiens avaient un réseau de commerce tourné vers l'Empire britannique, puis également tourné vers les États-Unis et dans une moindre mesure vers l'Europe. On sait aujourd'hui que le principal partenaire commercial de l'Australie, c'est la Chine, et cette intégration régionale, en libéralisant les marchés australiens, à la fois financiers, mais à la fois pour les investissements étrangers, et à la fois en faisant, en passant à une monnaie à un taux de change flottant, tout de suite l'Australie devient beaucoup plus attrayante pour les investisseurs. Et Hawke, sous l'impulsion de Keating, essaye d'intégrer l'Australie à sa région, en se disant, mais nous c'est bien, on consomme des services, on peut aussi en donner, mais on a ici énormément de ressources dont les pays autour de nous ont besoin pour leurs industries. Donc il serait intelligent qu'on se parle tous. Et ça, c'est le principe de l'APEC, c'est de réunir les ministres des économies d'un certain nombre de pays d'Asie, du Pacifique plutôt, comme le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, États-Unis, Canada, évidemment. Donc dans cette région, pour faire un peu basculer l'ordre du commerce mondial qui était plutôt sur l'espace atlantique, puis après avec la phase Moyen-Orient et le pétrole, et essayer de construire quelque chose en Asie-Pacifique. Et ça fonctionnait très très bien, parce que cette coopération a donné lieu à un certain nombre d'accords à la fois internationaux, mais surtout bilatéraux, entre l'Australie et de nouveaux partenaires économiques. Donc ça a permis de diversifier à la fois la clientèle australienne, si vous voulez, et également pour faire accélérer les investissements sur le territoire australien, et pas que dans l'industrie des mines. Voilà, encore une fois, c'est une ouverture qui prend du temps, mais ça a placé l'Australie comme, en organisant, en appelant à cette réunion, comme instigateur de cette nouvelle zone économique.
Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours pour la dernière partie de cet épisode consacré à Bob Hawke. Dans ce dernier épisode, on verra le rôle qu'a joué le duo que Bob Hawke a formé pendant les 4 mandats à la tête du gouvernement australien avec son ministre des Finances Paul Keating, qui va finir par devenir son rival. Et puis aussi le bilan que cet homme a laissé sur la politique australienne. Je vous propose donc de nous retrouver dans quelques jours pour la dernière partie sur Bob Hawke. À très bientôt.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Après le chanteur belge Stromae que l'on a entendu tout à l'heure, la chanteuse belge Angèle et ce titre tout oublié. Notre collègue Christophe Mallet a rencontré Jérémy Bourset, un jeune aventurier passionné par la mythique Renault 4, la voiture. Il raconte son engagement dans la course 4L Trophy, qui mêle défis automobiles, aventure humaine et actions solidaires au cœur du désert marocain.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Et bien aujourd'hui dans les studios SBS, on a le plaisir de recevoir, vous allez voir, un jeune qui a des idées plein la tête, il s'appelle Jérémy Bourset. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Alors toi et moi, on va se tutoyer, allez. On s'est rencontrés à la Cadel Event, on va dire la Mapei Cadel Event, Red Ocean Road Classic, c'est le vrai nom. En tout cas c'est la course de cyclisme qui avait lieu le week-end dernier sur les routes de Geelong. Et surtout tu m'as fait part d'un projet que tu as déjà en fait déjà mis en place, que tu as déjà vécu, mais que tu veux refaire, c'est le 4L Trophy. Alors déjà, pour ceux qui connaissent pas forcément l'automobile, la 4L en Australie, je suis pas sûr qu'il y en a eu beaucoup, mais c'est la Renault 4.
Exactement,
c'est c'est une voiture spécifique française, la 4L quand même.
Ouais, c'est un petit peu l'emblème de Renault pour moi, une vieille voiture des années 60 qui a persévéré parce qu'elle est quand même restée en production pendant une trentaine d'années. Et ouais, pour moi c'est une voiture mythique. Qui est bien représenté en France, on en voit un peu partout.
Toujours, on en voit encore, toujours, surtout dans les campagnes. C'est un peu la réponse que Renault avait eue à la 2 chevaux.
C'est ça.
Connaissez la 2 chevaux, c'est un peu la réponse de Renault à la 2 chevaux. Alors le 4L Trophy, c'est pas le Paris-Dakar, mais ça y ressemble.
À une petite échelle.
Une petite échelle. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi l'aventure du 4L Trophy?
Bah, l'objectif du Trophy, c'est de se retrouver immergé avec 1200 autres voitures et avoir les mêmes problèmes et en même temps...
Attends, t'as dit 1200.
1200,
c'est énorme.
1204L qui partent, ouais. En tout cas, si elles sont prêtes, parce qu'il y a des tests à faire avant pour partir. Mais normalement, 1200 voitures sont en tout cas engagées à partir. Et du coup, on se retrouve tous dans la même galère, dans les dunes, à essayer de se dépatouiller. Et en même temps, il y a un côté humanitaire, parce que du coup, on amène des affaires scolaires, des dictionnaires, enfin tout ce qu'on peut en tout cas pour aider à fonder des écoles au Maroc pour les jeunes qui sont au
Maroc. Hein, ouais, ça se passe dans le désert marocain.
C'est ça.
Et donc il y a ce côté humanitaire, excuse-moi.
Exactement. Ouais, on part de Biarritz, on traverse toute l'Espagne, du coup ça c'est la première étape pour prendre le bateau et après on reste environ 6 jours au Maroc à vadrouiller dans les dunes avec des étapes du coup, des étapes et il faut faire le moins de kilomètres possible.
Qu'est-ce qui est le plus dur, les dunes marocaines ou les routes espagnoles? Il est pas mal, le réseau espagnol, il est pas mal quand même.
Le réseau espagnol, ça va. Les dunes marocaines, ça dépend. Ça dépend à quel point la 4L est préparée. Nous, on n'a pas eu trop de problèmes parce que je m'étais assuré que la 4L soit prête à partir. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ont eu plus de problèmes sur l'autoroute parce qu'ils n'avaient pas assez de puissance plutôt sur les dunes. Ouais, ça dépend.
La différence dans le désert, c'est que sur l'autoroute espagnole, il y a des véhicules de 2026.
Exactement.
Qui vont beaucoup plus vite et qui réalisent pas à quel point une 4L, ça va doucement en fait.
Exactement. Dès qu'il y a une montée, on tombe tous à 40 km/h, mais ouais.
Mais c'est aussi ça le fun. Hein.
Exactement.
La 4L, c'est aussi le levier de vitesse à côté du volant.
Exactement, sur le tableau de bord.
Sur le tableau de bord, ça c'est complètement différent. Pour un jeune comme toi, c'est, j'allais dire, c'est une autre époque, mais c'est carrément un autre monde.
Un autre univers, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'aime la 4L, c'est parce que justement elle est atypique et c'est ma première voiture et je pense que ça restera ma dernière, je vais la garder toute ma vie.
Et bah voilà, c'est ça. Combien de préparation il faut pour préparer justement un véhicule pour que ça se passe bien?
Au niveau temps?
Ouais, au niveau temps, au niveau investissement, parce que c'est aussi un petit peu d'argent quand même.
Bien sûr.
Ça, c'est aussi beaucoup d'argent.
Niveau temps, j'avais mis à peu près un an pour qu'elle soit vraiment prête. Au final, on a eu quasiment aucun problème à part une crémaillère de direction bloquée, mais elle était vraiment prête niveau moteur. J'avais tout refait, refroidissement, enfin, tout était prêt à partir. Mais ouais, il faut quasiment un an et il faut compter, sans compter le prix de la voiture, au minimum 5 000 euros à peu près.
Ouais, d'accord. Et c'est une mécanique assez simple?
Oui, c'est ultra simple. C'est super simple. J'ai commencé, j'ai acheté une première 4L, je connaissais rien. Et j'ai tout appris sur le tas. Enfin, c'est très simple. Tu démontes une pièce, on trouve une autre et c'est super facile à réparer.
D'accord.
Les pièces se trouvent très facilement, justement, grâce au Trophy. Donc, non, c'est un bonheur.
Il y a un réseau, justement, grâce au Trophy où il y a la disponibilité des pièces, la disponibilité des connaissances. On partage un peu tout ça?
Ouais, il y a pas mal de groupes Facebook où tu peux trouver toutes les pièces ce que tu as besoin, les gens se donnent des conseils, on pose des questions si on a besoin, enfin, c'est plutôt bien organisé et les gens sont très bienveillants, donc même s'il y a un problème, il y a toujours une solution, quoi.
Ouais, la veille du départ de ce 4L Trophy, c'était ton premier raid, j'allais dire, on se sent comment? On a un petit peu peur, un petit peu d'appréhension, est-ce qu'on a bien tout fait, on révise si tout s'est bien passé?
Exactement, beaucoup d'appréhension, on ne sait pas trop dans quoi on se lance, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses que... Enfin, des rencontres, tout ça, on sait pas trop à quoi s'attendre. Mais il y a de l'impatience plutôt. Je pense que c'est plutôt l'impatience de vivre des bons moments.
T'avais juste envie d'y aller, quoi.
Voilà, c'est ça. Je voulais y être. Et j'ai pas regretté. Enfin, vraiment, c'est une aventure super. C'est pour ça que je la recommence en 2027. Et ouais, j'ai trop hâte. C'est génial comme aventure.
Et après, on va détailler un peu comment ça se passe dedans, quand on est dans la course. Parce que on se prend au jeu, je sais pas si t'y allais pour gagner ou pas gagner. Est-ce qu'il y en a qui, déjà, est-ce qu'il y a un gagnant au bout?
Ouais.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment ultra compétitifs, qui sont là pour gagner, ils sont pas là pour rigoler?
Exactement.
Et donc les autres, ça dénote un petit peu, mais c'est aussi ça le caractère.
C'est aussi ça. Il y en a qui ont l'esprit de compétition. Du coup, on gagne en faisant le moins de kilomètres possible sur les étapes dans le désert. Et nous, on n'est pas vraiment parti.
Il faut prendre la ligne
gagner.
La plus droite possible.
C'est ça, exactement. Donc, il y a vraiment une belle partie boussole, essayer de trouver son chemin, pas de tomber dans les ravins et tout ça, ce qui nous est un petit peu arrivé.
D'accord.
Mais non, on n'y allait pas pour gagner, mais ça reste quand même une super aventure. Tout le monde y va pour quelque chose. Nous, on était surtout accès humanitaire. On a réussi à emmener quand même 80 kilos de fournitures scolaires.
D'accord. Vous devez les récolter vous-même ou les collectionner vous-même ou c'est quelque chose qui est organisé en amont?
Non, c'est on peut acheter des fournitures du Trophy pour les amener pour le Maroc, mais nous on a essayé de faire autrement. On a été sponsorisé par Decathlon qui nous ont beaucoup aidé à trouver pas mal de fournitures scolaires, tout ça. Et notre ancienne école, nos lycées, ils nous ont donné beaucoup beaucoup et ça vraiment beaucoup les remercier parce que c'est grâce à eux.
Ouais,
c'est grâce
aux
sponsors et aux partenaires, quoi.
Alors là, 2027, c'est un projet. On en a pas mal parlé ce week-end à Geelong, toi et moi. Il faut quoi pour monter un projet viable en termes d'argent, en termes de... Ça veut dire quoi, justement, monter un projet au 4L Trophy viable pour être bien confortable?
Pour être bien confortable, il faut avoir des partenaires qui soient derrière notre dos. Mais c'est pas forcément qu'une question d'argent. Il y a pas mal de problèmes liés au temps, parce qu'il y a beaucoup de démarches à faire niveau papier, administration, préparer la voiture, tout ça. Donc il y a des sponsors qui nous font gagner du temps ou qui nous aident à trouver des contacts, tout ça. Et ça, je trouve que c'est le plus important pour que ça soit viable, facile.
Parce qu'au final, ça, si on parle d'argent, ça coûte combien de faire un 4L Trophy correctement?
Correctement, en comptant le prix de la voiture, c'est minimum 13 000 euros.
13 000 euros, d'accord. Ouais. C'est pas énorme. Je sais que ça, pour certains, ça peut être énorme, mais quand on regarde dans en anglais, on dirait the grand scheme of things, c'est pas énorme.
C'est
ça, ça se trouve, 13 000 euros.
Ça reste, oui, voilà, ça reste une petite échelle. C'est pour ça qu'il y a autant d'équipes qui arrivent à le faire tous les ans. Mais
et des jeunes, beaucoup de jeunes. Hein.
Beaucoup de jeunes. Bah, c'est un trophée pour les jeunes. Hein. C'est
tu vois, je peux pas y aller, 18, moi, je peux pas le faire. Ça, je peux pas le faire.
Peut-être, tout juste. Tout juste. Mais non, ouais, c'est surtout pour les jeunes, mais ça reste faisable. 13 000 euros, faut juste avoir pas mal de contacts, savoir à qui demander et puis à faire un bon dossier sponsoring que tu as vu d'ailleurs.
Ouais, j'ai vu d'ailleurs.
Et ouais, C'est ça, en fait, faire des démarches.
C'est ça aussi qui est intéressant dans quand toi et moi on en a parlé, c'est qu'il y a ce côté aventure. Bon, moi je reviens du Dakar, j'ai vécu, c'est peut-être le Graal, on va en parler dans un instant, le Dakar, mais est-ce que il y a aussi ce côté dossier sponsoring, ce côté responsabilité, ce côté créer le projet de A à Z qui est aussi super important pour toi?
Ah oui, oui, ah bah c'est sûr, c'est sûr, il faut bien gérer son temps, mais faut savoir toutes les étapes qu'il y a à faire. Là, pour ça, le trophy, ils sont bien parce que sur leur site internet, on peut trouver toutes les étapes, rien oublier, bien se préparer, tout ça.
Ils donc vous savez les étapes avant. Voilà, donc là, ça. Aujourd'hui, tu sais les étapes du prochain. Déjà, on sait déjà comment. C'est pas comme le Dakar où les étapes, on connaît un peu les points, mais le roadbook, on l'a 15 minutes avant.
Donc. Ah non, le roadbook, non. Par contre, on le connaît pas.
Ah ça, d'accord,
ça,
d'accord.
On se lance, okay. Ouais, non.
Ah d'accord.
C'est
d'accord.
Juste pour la préparation. Pour la préparation, d'accord. Ils donnent des indices pour pas.
Genre, ça va être caillasseux, ça va être de la dune, ça va être cassant, ça va être ça.
Ça, ouais, on le voit pas ça. On voit que quand on a le roadbook le matin.
Le matin même. Donc dans les mêmes conditions que le Dakar.
Un petit peu, ouais. Un petit peu. Bon, c'est quand même une plus petite échelle, mais ça reste une petite course quand même. Ouais.
Donc là, aujourd'hui, il te faudrait quoi? Il faudrait des sponsors qui aient envie de t'aider, pas nécessairement uniquement, bon, il faut de l'argent, mais pas uniquement nécessairement sur l'argent, sur aussi des aides administratives, des aides qui peuvent t'aider à faire que ton projet soit plus simple.
Exactement, ouais. Même niveau fourniture scolaire, enfin tout ce qui est à niveau des dons. Évidemment, oui, on a besoin d'argent, mais ça peut rester toujours un partenaire ou enfin n'importe quelle aide est la bienvenue et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui, c'est avoir du monde qui nous soutienne derrière pour que le projet soit viable et faisable.
T'arrives à rêver d'autre chose que de 4L et de 4L Trophy ou ça prend quand même pas mal d'espace dans le cerveau?
Ouais, ça prend la tête, mais en vrai
en bien
en fait, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses à penser, faut pas mélanger ses pinceaux, mais c'est... J'ai trop hâte.
D'accord. Et même là, en Australie, donc techniquement à l'autre bout du monde de ton monde à toi, qui est dans le sud de la France et donc du coup au Maroc pour ce 4L Trophy, c'est encore en plein dans ta tête. Tu faisais ta présentation pendant qu'on travaillait. T'es vraiment à fond dedans, en fait.
Ah, je suis à fond dedans. J'ai déjà contacté quelqu'un pour acheter une voiture. Je l'aurais peut-être même avant de rentrer d'Australie.
D'accord.
Donc, oui, je suis à fond dedans.
D'accord. Et donc, l'Australie, t'es jeune. T'as fait un working holiday visa. T'as travaillé ça. Ici. Et tu disais hors micro que l'Australie, pour toi, est quand même un pays sympa pour apprendre l'anglais parce que c'est pas l'anglais guindé de la Grande-Bretagne. Et puis, c'est pas l'anglais complètement, je vais m'arrêter là, sur les États-Unis. mais c'est un bon juste milieu pour un jeune.
C'est un bon juste milieu. Et les gens ici sont très accueillants. Enfin, je me plais beaucoup, donc je regrette pas du tout d'être parti. Et non, ouais. Pour apprendre l'anglais, je pense qu'il y a rien de mieux que de se lancer et juste de vivre des expériences avec des gens qui ne parlent rien d'autre que l'anglais. Et je trouve que ça marche super bien. Je vois mon niveau vachement progresser, donc je suis trop content.
Et juste, je reviens sur le 4L Trophy. Ouais. Tu veux repartir avec le même coéquipier que t'avais? C'est une aventure avec un pote? C'est vraiment votre projet à vous deux?
C'est ma compagne.
Ah, c'est ta compagne,
c'est
carrément.
Ma compagne, d'accord. Ouais.
J'aurais dû réviser, mais.
À l'époque, ça l'était pas. À l'époque, ça l'était pas, ouais.
D'accord.
C'était une amie, mais maintenant.
C'est une amie qui est devenue de ta compagne.
Exactement.
D'accord.
Et du coup, on repart ensemble, ouais, on s'est relancé parce que vraiment, ça nous a trop plu. C'est une aventure qu'on n'oubliera jamais, je pense. C'est l'occasion de la refaire une deuxième fois. C'est présenté, donc on saute sur l'occasion.
Alors, je te donne un petit truc, mais au Dakar, j'ai interviewé un couple qui a fait sa lune de miel sur le Dakar.
Oh.
C'était leur lune de miel, c'était le Dakar. Ah, ouais, donc ça se trouve, toi, dans l'avenir, ta lune de miel, elle sera peut-être aussi sur le Dakar. Tu gardes mon contact si tu fais ça.
Ça marche, je dirais.
Merci d'être passé nous voir, Jérémy. Est-ce que t'as un site internet, t'as des endroits où on peut te contacter ou sur réseaux sociaux?
Sur les réseaux sociaux, ouais. C'est 4L-2amis. Et du coup, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On va mettre toutes les avancées de l'aventure sur les réseaux. Donc,
d'accord.
Vous pouvez nous suivre là-bas.
Bah, nous, on va vous suivre et on mettra ça sur la page de ce podcast. Merci Jérémy.
Merci beaucoup.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Il y a comme un goût amer. Comme un goût de poussière, pas comme avant.
C'était France Gall et le titre, évidemment, pour finir cette émission. Merci beaucoup pour votre fidélité, messieurs, dames. Merci d'avoir suivi cette émission pendant une heure. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french ou sur toutes les plateformes de podcast. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est avec moi, demain, même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer un très bon samedi après-midi. Au revoir, messieurs, dames.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.